On m'a prié de vous annoncer d'abord, en excusant ce léger retard, que seuls les photographes des agences accréditées ont le droit de prendre des photos. Les autres journalistes sont, paraît-il, informés qu'ils n'en ont pas le droit. Voilà, si tu veux bien.
Merci de tout, hein.
Merci, je vous en prie, mon cher.
Tu veux te mettre à côté de Jean-Luc?
Ben alors,
voilà.
Elle est pas là, la fille.
Non, maintenant, je mets Freddy à côté, fille, hein, que je l'entende.
Oui.
Oui, Freddy. Oui.
Hein? Ouais. C'est dur. Je sais pas, c'est un peu surprenant. Oui. Voilà, si vous voulez bien terminer les photos, nous nous excusons du retard et je pense que, après avoir salué Jean-Luc Godard, Alain Sard et Ruth Walburger, coproducteurs ou producteurs du film, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Si les photographes veulent bien nous laisser le champ libre, s'il vous plaît. Voilà. À qui la première question? Vous manifestez votre intention par un geste. Voilà, nous vous écoutons.
Monsieur Godard, considériez-vous votre film un rêve, réalité ou un cauchemar?
C'est toujours difficile de répondre à ces questions. Soit on fait une plaisanterie, ce que j'ai fait pendant 30 ans, même sérieusement, soit... Et en fait, on répond à votre place. C'est à vous de dire. Moi, je ne peux pas dire. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. J'ai vu l'autre jour à la télévision Fanny Ardant qui lisait une déclaration et... qui m'a choqué dans les termes, enfin dans la syntaxe, qui disait si c'est nous les artisans du rêve, ce qui me semblait un peu orgueilleux et naïf, et qui disait si on se met à douter du rêve, enfin, ou à désespérer du rêve, que va devenir... Enfin, il y avait quelque chose par rapport au cauchemar, par rapport aux événements qui se sont passés en France dans un cimetière, et il y avait... une définition, enfin une idée du rêve, comme quoi si le rêve était opposé au cauchemar, le cauchemar est une partie du rêve. Le rêve, qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas que le cinéma est un rêve. Faire du cinéma est probablement un rêve, mais le film lui-même est un morceau de quelque chose. Il se peut que pour vous ce matin, pour moi ce matin, le voir à 8 heures du matin aurait été un véritable cauchemar, par exemple.
Oui, Domitiana Giordano. Après les rêves et les cauchemars, oui.
Si vous voulez, je pense que le cinéma est un instrument scientifique d'abord, qu'il a été au départ, et qu'il a été très vite dévié de sa forme, surtout par les Américains, assez vite, ou par les Européens d'Europe centrale qui ont émigré en Amérique et qui ont fondé Hollywood. Et sa force, c'était d'avoir une vision des choses documentaire, de l'agrandir et de la projeter devant les gens. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Et de le faire d'une manière qui pouvait être très spectaculaire, que n'avait pas le théâtre, que n'avait pas la musique ni la littérature. tout de suite. Même Méliès a eu plus de spectateurs que Dostoïevski n'aurait jamais eu de lecteurs. Mais très vite, ce côté spectaculaire qui aurait dû être partagé à 50%, le côté documentaire, est devenu la base, et qu'on a perdu ce côté documentaire, et que c'est peut-être quand il y a un film vrai, que ce soit un film russe, un film de Garel, un film de Vigo, quelquefois, quelques plans que j'ai faits, ce film, cette vision souvent est un véritable cauchemar de voir ce que pourrait être quelque chose de rêvé. Même Lénine disait, il s'est trompé après, parce qu'encore faut-il savoir rêver et connaître les rêves, mais même Lénine a dit, il faut rêver. On a vu que ce rêve a mené au cauchemar aussi. Ce n'est pas entièrement de sa faute à lui. Donc quand vous dites des choses comme ça, c'est... vous devriez réfléchir longtemps pour poser la vraie question et que moi je ne sois pas obligé après de bafouiller un peu des banalités comme ça.
Ah non, il y avait monsieur là qui...
La question qui vient d'être posée, à un certain moment dans le film, vous précisez que le critique, c'est un peu comme un soldat qui tire sur son régiment.
Alors, pas moi, c'est Jules Renard.
Oui, je sais. Je voudrais vous demander si vous n'avez pas l'impression, malgré tout, d'avoir réalisé votre plus mauvais film.
Mais c'est étrange ce que vous disiez, parce qu'à un moment au montage, j'ai eu l'impression, et je l'ai dit à Anne-Marie Méville, qui était... J'ai dit, ça sera peut-être mon premier mauvais film. Et puis j'ai essayé de savoir ce qu'il y avait dans ce mot mauvais, ce qu'il y avait de bon. C'est un film, par exemple, je ne me suis pas mis, en souvenir d'Aboussou, je me suis pas mis au générique. Dans la mesure où tous les gens qui ont fait le film avec moi, je les entendais dire, je fais le film de Godard. Comme ils étaient 30, je me suis dit, ben, il y a 30 personnes qui font le film de Godard, donc Godard ne fait rien. Dans ce sens-là, je me suis senti mauvais, si vous voulez. Et puis après, bon, on voit qu'il faut être... Mais j'ai eu cette impression, hein, des moments quelques... C'est qu'on ne revient pas 30 ans après sur les lieux, non pas du crime, ou du moins en tout cas du crime passionnel, puisque la Nouvelle Vague était une certaine manière à tort... Mais dans ce tort, il y avait quelque chose de vivant quand même, de vivre le cinéma comme il n'avait jamais été vécu, ni même par Rossellini, ni même par Griffith, et en tout cas pas aujourd'hui par ceux que nous sommes. Donc, le fait de revenir sur ces pas n'est pas forcément bon. Dans ce sens-là, on se pose, suis-je mauvais en cela ? Absolument.
Madame. Ah non, bon.
Monsieur Godard, il y a beaucoup de travelling dans votre film. Alors je voudrais que vous disiez ce que signifie pour vous ce mouvement de caméra au-delà de ce qu'il montre.
Vous savez, on ne peut plus répondre comme ça facilement par un jeu de mots, quelque chose. Je parle volontiers à haute voix puisque c'est mon devoir, comme le disait le texte de la serveuse dans le restaurant, tiré du poème de Schiller, Scrupule de conscience, ce que je fais, quel plaisir mes amis de vous servir, mais ce que je fais est naturel, j'en ai donc aucun mérite et j'en suis très affligé. Donc les travelling, effectivement, c'est un des personnages du film. Si je m'étais occupé de la brochure, j'aurais mis qu'il y a parmi des personnages, bon, il y a ce que vous autres, vous appelez les personnages, et puis il y en a d'autres. Il y a le chien, le cheval, vous avez dû vous rendre compte qu'on entend grosso modo toujours deux ou trois fois les mêmes sons et deux ou trois fois que ce sont des figures. À ce moment-là, il fallait que le style ait aussi ces figures. Je suis assez logique et assez bêtement logique, si vous voulez, dans ce cas-là. Donc, le cinéma ayant commencé par le plan général, je me suis, puisque pour moi c'était une espèce de retour, il fallait surtout filmer en plan général. Après le plan général, il y a eu le travelling, le gros plan est venu après. Donc il fallait utiliser ces deux figures et qui sont des personnages aussi pour moi.
Monsieur Godard, est-ce que vous pouvez nous donner les raisons de l'absence de Delon, s'il vous plaît?
Je crois qu'Alain tourne aujourd'hui et qu'il viendra ce soir et que il ne pouvait pas venir ce matin, c'est tout. Moi, j'en sais pas plus. Tu sais, toi?
Exactement.
Pardon, je me lève. C'est à moi. La voix humaine étouffée par n'importe quel bruit, par les oiseaux, bon, les vents, c'est le bruit de la cuisine. Pourquoi ça?
Non, pas dans ce film. Pas dans ce film. Hélas, il est projeté, la salle du palais, comme vous le savez, n'a pas une très, très bonne projection. C'est une salle de meeting, plutôt. Et ils ont des Altec au lieu d'avoir des JBL, ils ont des Philips au lieu d'avoir des ASR Neumann. Le Philips est assez vieux, du reste. Et donc, c'est pas. Et que c'était le premier film, justement, où les voix n'étaient pas couvertes par les voix des oiseaux. Donc, voilà. Ceci dit, quand je le fais, j'en espère d'être conscient. Et là, c'est quand même un film où on entend 5 fois les mêmes phrases. Alors, au bout d'un moment, on doit la comprendre, si vous voulez.
Est-ce que vous acceptez cette définition que j'ai eue dans ma tête, et puis je vous l'ai dit, que vous avez fait ici un film, d'abord, du style Godard, ça c'est sûr, mais c'est un opéra. Est-ce que vous acceptez que je vois ce film comme un opéra? Et pas un opéra filmé, mais une création d'opéra. Un souffle, une espèce d'atmosphère.
Je vous répondrai comme les jardiniers. Ça, c'est beaucoup ce qui m'étonne beaucoup. Et j'ai hésité à venir ici. Si je le fais, c'est que je respecte. En tant qu'auteur ou que réalisateur, je ne serais pas venu. En tant que coproducteur, je dois tenir la main à mes coproducteurs et aux acteurs qui ont joué dans ce film. En tant qu'auteur, parce qu'on a. On ne peut plus aujourd'hui faire. Puis ça m'intéressait une fois, 30 ans après, de revenir à Cannes avec le sentiment. Je me souvenais la première fois que j'étais venu avec Jacques Rosier et on avait croisé Nicholson qui apportait dans sa valise les premières bobines d'un film de Monty Hellman. C'était une toute autre époque, on pouvait aller, et que j'ai retrouvé un tout petit peu hier, j'ai eu la chance de pouvoir, on a pris un taxi, je suis allé voir un film de Chahine, quand j'avais besoin, je me suis dit, je ne peux pas aller demain voir ces gens-là qui n'ont pas vraiment quelque chose à me dire et qui passent par moi pour cacher leur angoisse, et moi je suis là, bien gentil, et c'est mon travail, et je déteste pas ça, mais il n'y a pas quelque chose de très sérieux. Et le fait de faire un certain nombre de kilomètres, pour aller voir un film, j'ai jamais vu de film de Chahine, par exemple, du coup, m'a redonné quelque. C'était un peu comme autrefois. On va voir un film, c'est ailleurs, c'est dans une maison de la culture qui, il y a 30 ans, n'existait pas encore. Donc, et ce qui me frappe, c'est que vous cherchez, vous comptez sur moi pour définir. Je vois pas ce que vous voulez. Pourquoi, quel plaisir vous avez toujours à définir le jardinier, le dit dans le film. Ce n'est pas une phrase de moi, c'est une phrase, il n'y a quasiment pas une phrase de moi, et je me souviens, je ne peux pas vous les dire de qui elles sont toutes, je les ai oubliées, mais celle-là, celle du jardinier de Jacques Chardon, et qui dit, tais-toi, laisse un moment les choses sans nom. À force de nommer les choses, à force de nommer le noir, le nègre, l'arabe, le projecteur Philips, Jules, mon amour pour toi, mon compte en banque, etc. Laissez un moment les choses sans nom. Le cinéma est là, il peut être muet, il peut être parlant, mais ce dont il parle est quelque chose de muet, qui est rendu à la vie par votre propre parole ou pas, effectivement. Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, que ça soit un opéra, un film policier, un match de football, c'est un film et c'est tout. Et l'encens, et je m'aperçois aujourd'hui que quand nous, à la Nouvelle Vague, et Truffaut d'abord, le premier a défendu la notion d'auteur, c'était simplement pour dire il n'est pas juste que Hitchcock, il n'est pas juste que Howard Hawks, il n'est pas juste au milieu du XXe siècle que Serge Eisenstein soit moins considéré que André Gide ou Fédor Dostoïevski. Il n'est pas juste, il est plus important, Eisenstein est plus important que l'Amos Film, et Howard Hawks est plus important que la Paramount. En tout cas, aussi important. C'était tout. Et puis, ça nous a dépassés. Et aujourd'hui, moi, je suis heureusement que je suis coproducteur, parce que je ne suis pas auteur. Les trois quarts des gens, j'essaye de... Et cette notion d'auteur et de vedette, il y a une autre phrase, quand vous me photographiez comme ça, moi j'ai une honte absolue aujourd'hui, ça me fait pleurer. Bon, il faut bien qu'ils gagnent leur vie en prenant une photo, mais pas comme ça. Donc on ne sait pas quoi faire. Et comment on a dévoyé cette notion d'auteur, il y a une autre phrase dans le film. Alors celle-là, je ne sais plus de qui elle est, mais tout le monde, le chauffeur dit en parlant du personnage joué par Domitiana et par Alain Delon, c'est il profanait la notion même de personne par le désir d'être une personnalité. Et il y a quelque chose qu'on sent très bien comme ça, plus quand vous me photographiez comme ça, moi qui suis un cinéaste, qui voit ce qui se passe, qui vous voit, qui me voit, c'est une scène de film dont on peut faire quelque chose, mais nous sommes comme un scientifique, je vois les forces en échange. Et on se dit, mais il profane. Alors comment voulez-vous qu'après, si même moi, un gentil vaudois entre Paris et Rolles, on me profane comme ça, comment voulez-vous qu'après, des imbéciles hypnotisés par la télévision, on n'aille pas profaner même des tombes? On est dans cette société-là.
Forlani. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Bon, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a de plus beau dans ce film, c'est le côté poème sur la nature, c'est-à-dire que les scènes avec les comédiens, bon, bah oui. Et, par contre, l'herbe, le cheval, les plans de lune, de nuages, tout ça sont les plus beaux du film. Il y a un poème Godard qu'on n'avait jamais vu, qui est très très réussi, là. Le plus beau rôle du film, c'est bien sûr le jardinier, c'est lui qui dit les choses les plus belles. Lui, on le voit toujours bien. Lui, il est filmé vraiment comme il faut. Donc, c'est le personnage du film. Pourquoi tu n'as pas donné ce personnage à Delon ? Tu lui as fait la vacherie de lui donner celui qu'on ne voit pas beaucoup, et pas celui du jardinier.
Tous les personnages sont égaux, et j'essaye depuis... Non, mais il y en a qu'on voit plus et qu'on voit moins. On est en démocratie, hein. La démocratie, ça... c'est comme ça. Il y en a qu'on voit plus et qu'on voit moins. Depuis longtemps, mais depuis tellement longtemps que... Lorsque j'étais avec Jacques Rosier ici, je me souviens qu'Alain Delon était à Cannes aussi, et il lançait un film de Yves Ney, puisqu'il avait joué pour la première fois dans un film qui s'appelait « Quand la femme s'en mêle » d'Yves Allégret. Et donc il y a 30 ans, on était en même temps ici, donc il y a quelque chose comme ça qui a fait qu'on a vécu... disons, la même industrie cinématographique française, chacun de son côté. Je lui ai demandé souvent, il a, pendant longtemps, ça ne s'est pas passé. Et puis là, il y avait un rôle, je pense, qui était possible pour lui, dans lequel je ne voyais que lui, puisque c'est quelqu'un qui peut, vu ce qu'il est, comment il se considère, son rapport avec lui-même, son rapport avec les autres, il peut à la fois être et avoir été... Et il peut tout à fait jouer un double rôle. C'est quelqu'un qui porte tout naturellement sa propre tragédie en lui. Et moi, comme on le dit dans le film, je ne peux lui faire aucun mal. Je peux l'agacer, l'énerver, le tuer peut-être, mais c'est tout. C'est pas... Et donc on a eu des rapports, tout... et il fallait quelqu'un. S'il n'y avait pas eu de long, j'aurais pas pu avoir du temps aussi pour oser, pour filmer un ruisseau à égalité. Et vous ne l'auriez pas remarqué. Je veux dire, il faut l'étoile, mais les étoiles, les scientifiques le savent, les étoiles, c'est quelque chose qui vient de loin, dont nous ne percevons la lumière qu'en retard. C'est pour ça que j'étais très, très en retard. Des fois, la lumière des étoiles, nous la recevons, même la lumière de la Lune, nous la recevons avec 5 minutes de retard. Et les stars de cinéma, c'est pareil, elles représentent des, disons, de la lumière ou de quelque chose des gens qui est déjà passé et dont on doit se servir d'une certaine manière et dont on, à la rigueur, à tout à coup, on peut faire un plan de cheval qui est aussi beau que celui de Delon ou de Domitiana qu'on fera, mais qui ne sera pas senti, qui peut être senti peut-être comme personnage. Je suis content que tu l'aies senti comme ça. Moi, je ne vois pas.
Questa domanda è per Domitiana Giordano. Se questo film è un metafilm, ti senti la citazione di Tarkovsky?
Credo che la Nouvelle Vague è tutta quanta fatta di citazioni, anche Godard. Lui stesso, oddio, qualcuno capisce l'italiano qui? O forse è meglio che parli francese? Tu parli francese? Non so, che lingua devo parlare? Les Français, alors. Alors, je crois que la Nouvelle Vague, c'est. Il y a beaucoup de citations. Alors, et moi, par exemple, je m'appelle dans le film Elena Torlato Favrini, qui est comme Ava Gardner dans La Comtesse à pieds nus de Mankiewicz. Et Nouvelle Vague, c'est. Eh bien, tu sais, une citation, hein. Alors, c'est vrai? Jean-Luc,
que c'est... Oui, sûrement, sûrement. Ça doit, il doit y avoir du vrai.
Peut-être. Oui, à vous, parce que vous manifestez depuis longtemps, oui. Le micro.
Mais on vous redira ce qu'il a dit. Ben, c'est un japonais qui veut poser une question très naïve. Il voudrait savoir pourquoi j'ai donné ce titre, quel rapport avec... Et vous... Et ça vous est pas paru évident? It was not clear to you. Mais j'aime bien donner des titres qui à la fois se rapportent à l'histoire, mais d'une manière, enfin à l'histoire, au scénario, mais d'une manière un peu dérobée, et qui sont des titres aussi, disons, comment on dit en latin, sui generis, des titres... des titres génériques qui ont une valeur en eux-mêmes et qui expriment une idée ou une pensée ou quelque chose. Là, l'idée, puisqu'on s'est appelé comme ça, autant lui donner ce titre, et que le film raconte très précisément l'histoire d'un morceau de mer ou de lac et qui a une première vague. On s'y noie et après il y en a une deuxième et on ressuscite. Ça me paraît d'une banalité consternante, cher ami, parce que il faut surtout de le dire. Si on disait rien, ça resterait pas banal, ça resterait mystérieux, mais comme vous voulez absolument qu'on nomme les choses toujours.
Je sais que vous n'avez pas envie de nous dire le nom des écrivains français que le jardinier cite.
Non, mais j'en ai...
Mais je pense que pas tous les Italiens ont reconnu les écrivains français, et comme pas tous les Français ont reconnu les écrivains français et italiens. Alors, j'aimerais bien savoir, si vous voulez, quelques noms après Jules Renard.
Non, mais il y a quelques noms que je peux vous dire, mais il y en a tellement... Et le premier travail de mon assistant, on s'est dit, écoute, on ne sait pas quoi faire, on a signé le contrat, on a un titre. Moi, j'avais un scénario, et une histoire qui, pour une fois, avait emballé un acteur et un producteur. Et quand il racontait l'histoire, les banquiers ouvraient un crédit à Sardes immédiatement, ce qui nous était jamais arrivé. Non, il y avait un peu de ça. Mais simplement, l'histoire durait 2 minutes. Et qu'un film, il faut faire 1h30, enfin un long métrage. Et donc, avec mon assistant, on s'est dit, écoute, prends tous les romans que tu aimes, moi je te donne les miens, il m'en reste une vingtaine, essaye de prendre toutes tes vaches, Hemingway, Faulkner, Gide, Jardin, et puis prends des phrases type. Et il y en a. Et aujourd'hui, les trois quarts, on ne sait absolument plus de qui elles sont, surtout qu'à des moments, on les a un peu modifiées. C'est dans ce sens-là, si vous voulez, que je ne me mets pas au générique. Ce n'est pas moi qui ai fait le film. Moi, je n'en suis que l'organisateur conscient. Pas du tout, je n'ai pas l'impression de... Comme Cocteau disait, nous ne connaissons... Faisons semblant d'être les organisateurs d'une... Non, non, pas du tout. Moi, je résiste au courant. Il y a la vague qui va dans une direction. Domitiana veut faire ceci, Alain veut faire cela, le producteur veut faire cela. Et puis... Moi je suis là et puis ça devient autre chose. J'ai toujours eu ce sentiment-là et là j'ai essayé de le porter. Et puis toutes ces citations sont pour moi, qu'elles soient picturales, musicales, appartiennent à l'humanité, si vous voulez. Certains mots de Dostoïevski, je est un autre. Un titre de Raymond Chandler, The Long Goodbye. Pour moi, c'est tout un programme. Il faut le mettre en relation avec d'autres. Je suis simplement celui qui met en relation Raymond Chandler et Fédor Dostoïevski dans un restaurant un jour avec des petits acteurs et des grands acteurs. Voilà, c'est tout.
Il y a un livre que vous citez beaucoup depuis quelques films, c'est la Bible. Ça n'a pas toujours été le cas. Pourquoi ?
Il y a une notion d'origine. Il y a beaucoup de disputes. Moi, j'aime bien les querelles, si elles ne finissent pas par des... Comme du sport, si elles ne finissent pas par des guerres... Je vois que cette histoire de livre saint me tarbute dans la mesure où, pendant longtemps, j'ai considéré que le cinéma consistait à voir et à dire après. Je vois que l'islam, la civilisation juive et chrétienne partent toujours d'un livre. Et bon, ces choses... Donc d'où vient même la parole que je parle? Il faut que j'aille l'apprendre chez les autres, au même titre qu'un paysage. Le cinéma, ça a ce charme de ne rien inventer, mais d'être témoin et responsable de ce qui a été inventé, de faire le meilleur témoignage possible, la meilleure comparaison avec pour un cinéaste, c'est pas un romancier ou un peintre. Pour moi, ça a toujours été même pas médecin, c'est plutôt juge d'instruction ou attorney aux États-Unis.
Voilà, ah bon.
Ça marche ou non? Ah bon. Ça va. Alors, bon, d'abord pour Cocteau, la citation plus ou moins exacte, c'est « Puisque le mystère de ces choses nous échappe, feignons d'en être l'organisateur, ce qui s'applique
dans votre cas, non, moi pas plus. Du tout, car je ne fais pas semblant d'en être l'organisateur, je le suis, bon. Et je suis payé pour ça.
Mais ce n'est pas ma question, c'est tout simplement, avez-vous vous-même personnellement été jamais piqué par une abeille morte, ou sinon piqué par quelque chose d'autre? C'est profond comme question, mais personnel.
Non, mais c'est des questions,
C'est votre cœur mis à nu.
Mais non, mais c'est une question que vous poseriez jamais à vos enfants ou à votre femme ou à votre patron. Pourquoi me la poser à moi?
Absolument.
Mais c'est pas des. Mais non, mais c'est pas.
Mais une... vous connaissez pas, mais ma... pas... ma femme, mes mais femmes ou mes enfants.
Mais c'est pas une question.
Mais vous la posez vous-même dans votre film.
Non, je rappelle une phrase d'un film que j'ai aimé et qui a peut-être un sens et qui là est un artifice de scénariste et qui en plus est d'un film, c'était dans To Have and Have Not, auquel a collaboré Raymond Chandler. Et donc, par une logique après complètement littéraire, il était normal que le personnage de Delon s'appelle Terry Lennox, en souvenir d'un autre roman de Raymond Chandler. Enfin, je ne sais pas, des choses comme ça. Le reste, mais ce n'est pas une question que vous qu'on pose à un réalisateur. Vous ne demanderiez pas ça à Van Gogh ni à votre concierge.
Non, je n'ai pas de concierge, Van Gogh est mort.
Non, mais ce n'est pas... Il faut, c'est ni sérieux ni plaisantin. Ça, c'est des questions auxquelles, si vous voulez, on ne peut répondre qu'avec une... et qui n'est pas sérieux. Là, vous n'êtes pas un critique, vous n'êtes pas un critique sérieux. Et Jules Renard a bien raison d'en parler comme ça. Non, non, pas du tout. C'est une fois, je suis allé dans le bureau de Sardes à Paris. Il était au milieu d'un monceau de traite. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais? Et il m'a dit, je fais pitié. Et voilà. Et on prend la phrase. Mais Delon est particulièrement bien placé pour le dire, car il amène des tas de choses chez vous. Je trouve que vous avez souvent du mal à traduire vos questions, et que ça s'est énormément... Je pense que ça n'existait que l'histoire de la critique est passionnante, parce que la France est le pays de la critique par excellence. Le français aime se critiquer et critiquer les autres. Et que pour moi, l'histoire de la critique d'art est presque uniquement française. Non pas qu'il n'y a pas eu des historiens d'art, non pas qu'il n'y a pas eu des essayistes, mais il y a une tradition de la critique en France depuis Diderot, et pour moi il y a une filiation directe qui va de Diderot à Baudelaire, à Elifort, à Malraux, et puis là tout de suite à Truffaut, qui était pour moi presque le dernier critique en France. Il y a eu un moment Cournot, quelques années, et ça s'est passé dans le cinéma, et ça s'est passé à l'époque que François Giroud avait appelé la... Enfin, dans un mouvement, François Giroud, ou à la suite d'une déclaration de François Giroud, s'est appelé la Nouvelle Vague. Et que cette notion de... Oh, je ne m'en souviens plus pourquoi j'étais parti là-dessus. Pourquoi ? Oui, cette notion de critique, je veux dire, ça c'est alors... Et là, alors je dirais, j'ai vécu un... au sens où madame l'employait tout autrefois, un mauvais sens, un sens un peu bête, comment... ou à la façon dont parlent les speakers de télé. J'ai vécu un rêve absolu, et moi j'ai vécu deux rêves dans ma vie. J'ai vécu mon enfance dans une famille extrêmement riche, comme celle qu'on filme là, avec au même endroit, dans ces chalets, c'était de l'autre côté du lac, et des choses comme ça. On m'a éduqué, on m'a laissé tranquille. Et j'ai vécu, il y a tellement d'argent qu'on ne s'en rendait pas compte. C'était en pleine guerre, je n'ai rien connu de la guerre, j'ai connu après, et ça m'a apporté beaucoup de remords. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, même Sardes le sait bien, le besoin de gagner de l'argent pour un film n'existe pas. Moi j'en ai eu, je n'ai pas besoin d'avoir 4 maisons, j'en ai eu 40, qui n'étaient pas à moi, mais qui étaient de notre famille. Et puis après, il y a eu la Nouvelle Vague, une équipe... qui sont des choses, je crois, très très rares, comme le néo-réalisme a eu en Italie, comme l'école de Paris, les ballets russes, des choses comme ça. Ensuite, ça a disparu aussi, parce que ça ne dure pas très longtemps, ça ne peut pas durer très longtemps. Donc, ayant connu ça, ensuite, qu'est-ce qu'on peut ? On peut commencer à connaître le réel, et puis avancer, tout le monde essaie, Chahine essaie, il y en a qui reviennent sur leurs traces... On est dans une époque. Mais alors, la critique, ça a disparu. Et il y a eu un moment critique en France, très fort, qui était la Nouvelle Vague, qui étaient des gens qui ne connaissaient rien à la vie, quasiment rien à leur famille, rien à leur femme. Moi, j'ai connu des femmes, je ne sais pas, à 25 ans, tout le monde aujourd'hui, à 13 ans, ils couchent avec une... Tout ça apporte à la fois une légèreté, une possibilité de violence et d'innocence, et après beaucoup de remords, et cette phrase, le souvenir, je ne sais pas de qui elle est, le seul paradis dont nous ne pouvons être chassés, je crois qu'elle est d'Arthur Schnitzler, mais je n'en suis pas sûr. Et bien tout ça fait que... Et la critique pour nous était faire des films. Hélas pour vous, et souvent vous me faites de la peine, c'est pour ça que je vous parle gentiment, c'est que ce n'est pas faire un film. Pour moi, avant, quand j'ai fait ma première critique, si Rivette écrivait, m'en a dit du mal, mais c'était infiniment plus grave que de ne pas avoir une petite palme ici à Cannes ou d'avoir un grand échec sur un autre film. C'était simplement que l'autre membre du groupe disait « ça, c'est pas bien ». Et ça, c'est quelque chose que je regrette et que je ne trouve pas, et que souvent, quand je vous parle, moi, je parle aux journalistes, je viendrai, mais pour moi, je peux rester 12 heures ici, mais dans 12 heures, il n'y aura plus personne. Ou j'espère qu'il en restera une, mais le palais nous aura vidé. La critique était tout autre chose pour nous. Elle était un... Et les films, pour moi, sont restés comme ça. Moi, je suis un journaliste, romancier, j'aime bien le cinéma parce qu'on peut faire de tout sans faire grand-chose, on peut faire un peu ce qu'on veut, en même temps, il faut être rigoureux. Et je suis désolé qu'on ait pris cette notion d'auteur. Aujourd'hui, n'importe quel garçon, si vous ouvrez l'annuaire du téléphone, qui n'a jamais de film, il marque déjà cinéaste. Moi, je n'ai jamais été un cinéaste. On m'a appelé comme ça... Tout le monde peut faire des films, mais en même temps, très peu peuvent en faire. Si vous regardez Dreyer, en 70 ans, il a fait 6 films, et 6 très beaux films, c'est un maximum qu'on peut faire. Alain Delon, par exemple, quelque chose que j'ai toujours respecté, plus que chez d'autres, c'est qu'il a fait quand même 5 ou 6 grands films, ce qui est énorme, et c'est quelque chose qui a manqué à Romy Schneider. Elle n'a jamais fait un film qui l'ait rempli, comme Delon a fait Monsieur Klein, ou qu'il a fait Rocco, ou qu'il a fait Notre Histoire. Romy, à des moments, elle a tellement donné au public, et le public, où elle n'a pas trouvé le producteur ou le scénariste qui puisse lui rendre quelque chose, et qu'elle ait un capital d'honneur et de fierté de ce qu'elle avait fait, la femme qu'elle était. Voilà.
Allez,
je voulais vous demander le texte qui est dans le dossier de presse concernant l'Ancien et Nouveau Testament. À quel moment est-ce qu'il apparaît dans la genèse de votre film? Ou bien peut-être l'avez-vous écrit rien que pour Cannes et pour intriguer les critiques?
On l'a écrit pour l'avance sur recette, parce qu'il faut écrire un petit synopsis. Et que moi, j'essaye toujours que ces travaux protocolaires et obligatoires soient aussi une manière pour moi d'être rigoureux avec moi-même et de ne pas écrire n'importe quoi et de pouvoir m'y référer après. Alors effectivement, j'ai pris des trop grands élans, mais pour moi, c'est effectivement le côté de ressusciter, de pouvoir refaire quelque chose c'est-à-dire d'être à soi-même un autre et d'être différent. On voit bien aujourd'hui, il y a une confusion absolument totale et personne ne comprend ce qui se passe en France, et je trouve que c'est une bénédiction pour la France que ça se passe en France, car ça permet encore de réfléchir, plutôt que de dire que c'est une horreur, que Le Pen est 30%, il faut dire que c'est une bénédiction, car ça nous permet de réfléchir à nous Français. Les Allemands, les autres ne peuvent pas réfléchir à ça. Nous, on peut, et la France est faite pour réfléchir. C'est une langue qui est faite pour réfléchir, qui est claire, qui est nette. Et Rivarol l'a dit, et on le dit même quand je le sais, la syntaxe française est incorruptible. Les passions nous bouleversent, la syntaxe française est incorruptible. Mais souvenons-nous-en, il y a quelque chose avec la télé qu'on ne comprend pas et qu'essaye de faire le cinéma, en tout cas que moi, qui m'a intéressé dans ce film, un peu inconsciemment, c'est l'autre, mais ne fût-ce que l'autre moi-même. Cette phrase de Rimbaud, je me l'ai dit depuis tout petit, je l'ai trouvée géniale. Et puis tout à coup, on s'aperçoit qu'elle vous concerne, vous, je est un autre. Mais alors si je est un autre, qui est je? Et qui est cet autre? Qui est je? Enfin bref. Et on ne s'en sort pas tout de suite par la parole, il faut passer par autre chose, en tout cas une parole qui est une parole ordinaire, disons, qui n'est pas la parole biblique au sens du verbe. Et la télé, au contraire, les médias, c'est-à-dire vous, vous nous faites croire que nous sommes tous les mêmes. Mais les gens deviennent fous. Vous voulez à la fois être tous individuels, que l'un ait le droit d'aller chez Trigano, l'autre à Honolulu, l'autre à Cannes. Alors, il faut à la fois être différent, puisque Cannes n'est pas Honolulu, puis en même temps, il faut être tous les mêmes, alors Trigano est partout. Mais on devient complètement fou. Alors, si en plus, il y a du chômage, qu'il y a ceci et qu'il y a cela, comment voulez-vous qu'on n'arrive pas à des aberrations sexuelles, politiques ou des trucs comme ça? Nous ne sommes pas tous les mêmes. Moi, je suis européen depuis ma naissance. J'ai toujours habité dans deux pays. J'ai essayé d'habiter dans trois. J'ai deux maisons. J'ai essayé d'en avoir trois. Et puis je me suis aperçu que Cadet Roussel avait raison, qu'il y a trois maisons, perd la raison. Mais j'ai toujours vécu naturellement dans deux trucs, ce qui fait que ces histoires d'Allemagne de l'Est me touchent, par exemple, énormément, ces histoires de Lituanie, ces histoires de Palestiniens, ces histoires de trucs. Tout ce qui est divisé m'a toujours beaucoup touché, le documentaire et la fiction, toutes ces choses-là. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Par contre, on peut avoir momentanément, et j'aime la science pour ça, en tout cas quand elle travaille, et l'art aussi, on peut avoir momentanément le même but, le même tableau. Si on peint les demoiselles d'Avignon, eh ben, on les peint comme Picasso. Voilà, il a montré, et ça c'est scientifique, on ne peut pas les peindre autrement. Il y en a d'autres comme ça, eh ben voilà. Mais Picasso n'est pas X ou Y. Il est tout à fait différent. Par contre, les demoiselles d'Avignon peuvent être uniques. Si on veut faire les demoiselles d'Avignon, on ne fait que ça.
Voilà, il me semble Michel, que ce commentaire...
Peut-être encore, Michel, oui. Simon, non, je voudrais deux questions. Enfin, d'abord,
Je voulais te remercier d'abord de m'avoir fait connaître le nom de Pélechian, dont j'ai vu les films. Heureusement piraté par Freddy à Lausanne. Et j'ai trouvé ces films absolument admirables. Et je te remercie en tout cas, parce que c'est toi qui l'as fait connaître.
Merci. Je voulais deux questions. D'une part, est-ce que, on connaît votre admiration pour Guitry, est-ce que le film, d'une certaine façon, est votre variation sur la vie d'un honnête homme? Et deuxièmement, je connaissais moins votre admiration votre intérêt pour le tennis, parce qu'il y a des tas de citations très précises. Et je vous remercie à mon tour de l'hommage à ce génie oublié du tennis qui est Larsen, qui c'est un peu soigne ton gauche, Larsen.
Tout à fait.
Et je voudrais savoir le rapport pour vous entre le tennis et le cinéma.
Non, faudrait être plus calme, arriver à dire comme ça. Il y a certainement un échange, on peut donner des coups et en recevoir et puis ne pas mourir, et puis il y a sans arrêt, enfin je sais pas, là je réfléchis à haute voix, je dirais qu'il y a un changement de plan, il y a du découpage dans le tennis, et il y a quelque chose, certainement, tout à coup on fait un plan, puis après il y a des plans séquences qui sont des échanges, puis tout à coup il y a des plans vite, il y a un rythme et une cadence, c'est très musical, c'est quelque chose, et il y a du dialogue, mais du dialogue muet, et le cinéma c'est le dialogue muet. Guitry, vous voyez, un film de Guitry sans la bande-son, il est pareil. Vous voyez mon film sans la bande-son, il sera meilleur. Mais vous voyez que la bande-son sans les images, il sera encore meilleur.
Je pensais qu'on pouvait encore une ou deux
Merci.
Questions.
Merci, encore une dernière.
Hein, ou bien s'il y a une question à l'interprète ou au producteur, sinon encore une question... Ah ben, il semble qu'il n'y en a plus. Ah si, on vous voit mal. Ah voilà.
J'ai perçu votre film comme un écho des paroles de journaux qui nous restent quand on les prend le matin. C'est surtout ça. Alors moi, n'étant pas une occidentale, encore moins une cinéaste, à la fin du film, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit ? Finalement, j'assiste à un désenchantement global avec un certain plaisir momentané Et je me dis, pourquoi Godard ne voudrait pas aller plus loin?
Ah, mais je suis toujours étonné, vous voyez des tas d'autres choses. Une heure que je vous dis que c'est pas Godard qui a fait ce film, vous voulez que j'aille encore plus loin? Non, mais c'est élémentaire ce qu'il y a dedans. Voyez une femme qui renverse un homme en voiture. Bon, ils se tendent la main. Ensuite, on voit deux ou trois choses. Et puis, on voit la femme, l'homme qui se noie, et qui tend la main. Et la femme ne la prend pas. Ensuite, cinq minutes après, on dit l'hiver est passé, l'été est revenu, il est toujours, l'été était déréglé. Enfin, on dit ça d'une manière que certains amis appellent poétique. Et puis, là, c'est l'inverse. C'est la femme qui se noie ou qui veut se noyer. Elle tend la main, l'homme hésite un moment et puis finalement, la lui prend. Et puis, tout à coup, la femme... puis après, la femme lui dit « Ah bon, alors c'était toi ?» Ben voilà. Mais il n'y a rien d'autre. Quelqu'un a reconnu quelqu'un d'autre et chacun a accepté les difficultés. Et c'est loin d'être bien fait, je suis d'accord. Les difficultés de reconnaître l'autre pour ses besoins propres. Mais c'est d'un élémentaire... Non, mais ça, c'est ce qu'il y a sur l'écran. Vous le montrez à un juge d'instruction, qu'il soit stalinien ou qu'il soit américain, il vous dira, c'est ce qu'il y a sur l'écran. Tout le reste est dans votre tête. Il y a aussi des choses dans ma tête, mais il y a quelque chose qui est sur l'écran, comme sur une plaque de microscope chez un médecin. Il y a un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on voit très mal. C'est vrai qu'on voit très mal et que la science même a mis des années, des siècles à accepter. On a accepté des siècles. Au début, la Terre était... On lisait du temps de Ptolémée que la Terre était plate. Et puis après, l'univers est devenu courbe. Et puis aujourd'hui, avec Hubble et des choses, la Terre n'est plus plate. Mais l'univers, on se demande si elle n'était pas comme Ptolémée l'avait dit, d'une certaine manière. Donc on voit que tout ça, on ne sait pas voir. Moi, j'ai toujours trouvé merveilleux le cinéma parce que ça devrait arrêter les discussions. En tout cas, entre gens qui ne se connaissent pas, entre amis très longtemps. Et puis au contraire, la nouvelle vague a eu un effet absolument pervers. Les discussions entre nous... Entre moi, Rivette et Truffaut, qui étaient des discussions privées, amicales, enfin, ou violentes, parce qu'il y avait des violences extrêmes, comme il y a dans les milieux politiques ou dans les milieux militants. Et maintenant, c'est devenu une conversation entre vous et moi. Mais il n'y a pas de conversation.
Et s'il y a un désir d'échange, si on a regardé le film avec...
Mais il ne peut... Oui, mais après, il ne peut pas se continuer par des paroles. Il ne peut pas, ou pas ces paroles-là, ou c'est trop vite. Ça, je suis d'accord, c'est le festival, on joue tous le jeu. Moi, j'étais navré que vous deviez venir à la conférence de presse. Une demi-heure après, vous êtes levé en plus à 8 heures du matin. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut aller redormir. Et puis, on la refait demain. Allez, bon appétit.
Merci.
Thank you.